de référence, je l'ai dit, chez Grasset, c'est une foi militante, c'est ça? Et donc chaque converti s'en va porter la bonne nouvelle, c'est quelque chose de très particulier, très spécifique à l'évangélisme.
Effectivement, alors les évangéliques, d'abord c'est des chrétiens,
ouais.
Ils se réfèrent à Jésus-Christ, à l'offre de salut, Jésus-Christ. Ensuite c'est des protestants, donc ils ont souvent la Bible en main, ils citent volontiers la Bible. Mais enfin, ce sont des chrétiens de conversion, effectivement. Donc pour eux, on ne naît pas chrétien, on le devient, suite à conversion. Et qui dit conversion, dit aussi prosélytisme. Mmh. Donc en effet, les églises évangéliques sont des églises généralement plutôt militantes et tournées vers la conversion, vers le prosélytisme.
Alors le point sur votre travail est sur l'essor incroyable depuis plusieurs années de cette église évangélique dans le monde et en France, évidemment, avec Gaël.
Aujourd'hui, au nouveau pouvoir évangélique. Alors, comment définir ce courant du christianisme? Quelles valeurs promeut-il et pourquoi est-il en pleine expansion? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Spécialiste du protestantisme évangélique depuis plus de 25 ans, vous publiez en 2002 un livre consacré à Billy Graham. Ce pasteur américain très influent a notamment organisé un rassemblement devant le Capitole en 1952 pour réclamer l'instauration d'une journée nationale de prière.
And Phil, we come back to the Bible, back to the church. I am absolutely convinced that we shall never solve the problems of our day and save our country.
Dans les années 50, la France ne comptait que 50 000 protestants évangéliques. Ils seraient 1,1 million actuellement. Vous les définissez selon quatre critères. Ils se réfèrent à Jésus-Christ, par qui le salut doit arriver. La Bible est centrale. Ce pasteur de Saint-Denis conseille par exemple un fidèle en s'appuyant sur le livre des Proverbes.
Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur.
La conversion, en effet, les évangéliques le deviennent plus par choix que par transmission, d'où la cérémonie des baptêmes d'adultes.
J'adore Jésus.
Il est ton Seigneur.
C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est mon roi.
Enfin, le prosélytisme. Selon vous, chaque fidèle est encouragé à se faire porteur de la bonne nouvelle.
Fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus.
Cela prend parfois des tournures surprenantes, comme avec cette pasteur, Tina Rally, qui évangélise dans le métro parisien du lundi au vendredi.
Jésus vous aime. Jésus vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer.
Les raisons du succès de cette religion, la troisième en France après le catholicisme et l'islam, tient aussi à l'habitude d'entraide et à l'aspect communautaire cultivé au sein d'églises qui ressemblent parfois à des centres de loisirs. Page 394, vous précisez, l'option évangélique séduit aussi car elle offre un capital social élargi et la promesse d'une nouvelle famille d'adoption.
Oui, vous évoquez, Sébastien Fatt, une fraternité élective qui explique toutes ces conversions. 62% des convertis en France, c'était des catholiques, 2% des musulmans et 2% des juifs. 27% de convertis n'avaient pas de religion, étaient arreligieux. Qu'est-ce qui mène à la conversion?
Alors on a longtemps parlé d'un héritage chrétien en disgrâce, d'un christianisme en crise, et on s'aperçoit, en observant le terrain évangélique, que c'est pas tout à fait ça. Et là, sur le créneau chrétien, on a effectivement des associations de convertis qui recrutent beaucoup. Et qui recrutent non seulement en recyclant, si je puis dire, des catholiques, et il y a beaucoup d'anciens catholiques qui rejoignent ces églises, mais aussi en touchant d'autres publics, y compris des agnostiques et des athées. Alors je crois qu'une des clés, c'est de resituer cette croissance évangélique aujourd'hui dans le contexte des mutations sociales et économiques plus larges. Depuis la fin des années 70-80, nous sommes passés du capitalisme industriel vers un capitalisme néolibéral. Et le rêve néolibéral, c'est quoi? C'est rien entre l'individu et le marché, comme disait Bourdieu. Or, on ne fait pas société avec ça. Il y a une demande de lien, il y a une demande de famille, il y a une demande d'affection, de convivialité, de commensalité. Et les églises évangéliques, voilà, qui sont effectivement des fraternités électives, proposent ce lien social. Elles fonctionnent vraiment sur le régime de la fabrique du lien.
Mais en gros, vous dites, il y a moins de bistrot en France, il y a moins de sociabilité, on va la chercher chez les évangéliques.
En effet, ce sont des lieux où on s'embrasse, où on passe du temps ensemble, où on va également s'intéresser aux soucis des uns et des autres, de façon très concrète. C'est une demande aujourd'hui de beaucoup de populations. Alors, d'une part, dans les quartiers des grandes villes, où il y a parfois un déficit également de sociabilité, de services publics, et par ailleurs aussi dans ce que Christophe Guillouis, le géographe, appelle la France périphérique, tous ces villages, ces petites villes, aujourd'hui, où les commerces ferment les uns après les autres, où il n'y a plus beaucoup beaucoup de vie sociale. Et une église évangélique, dans ce contexte-là, c'est un véritable oasis.
C'est un phare dans cette obscurité de socialisation. Alors, on va évoquer avec vous, Sébastien Fad, et avec Anna, les méthodes pour attirer de nouvelles recrues. Alors, ça passe par des gens qui taguent Jésus sauve sur les murs des villes. Et puis, ça passe aussi par le hip-hop.
Oui, le hip-hop évangélique, qu'on appelle aussi évandrill, c'est un mélange d'évangélisme et de drill, qui est un des sous-types du hip-hop. Eh bien, ce genre musical séduit de plus en plus de jeunes adeptes en France. Je vais vous faire écouter un morceau du rappeur belge Imra.
Maintenant, je regarde au ciel, c'est plus comme à l'ancienne. Jésus, mon essentiel, pour jamais je retire. Amen, 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 tout le pour qu'il mette. Amen, amen, évangélisé, on va le faire.
Alors ce rappeur, il est loin d'être une exception. Il y a de plus en plus de rappeurs en France, notamment Manu Bolomic, Le Psalmiste, Konosco, Redflow, pour ne citer qu'eux. Et tous, eh bien, ils respectent les codes du rap, c'est-à-dire des basses, un flow ciselé, débité dans les règles de l'art. Sauf qu'au lieu de parler de violence, de drogue ou de sexe, eh bien, eux, ils préfèrent vanter les mérites de Jésus-Christ et parler d'évangélisation sur fond de grosses cylindrées. L'idée, vous l'avez compris, c'est de raconter leur expérience, raconter ce qui les a menés sur la voie de Dieu pour essayer de réveiller la foi des jeunes chrétiens, mais aussi des athées. Alors Sébastien Fatt, est-ce que vous pensez que ce genre de musique, eh bien justement, ça permet aux églises évangéliques de recruter de nouveaux adeptes ?
Oui, absolument. Je crois que c'est une des dimensions aussi de l'attractivité de ces églises aujourd'hui, c'est qu'elles donnent des responsabilités aux jeunes. Elle leur donne des responsabilités dans un monde où les jeunes accèdent de plus en plus tard au marché du travail, accèdent de plus en plus tard au logement, ont le sentiment parfois d'être un petit peu laissés de côté. Et bien dans ces églises, on veut leur donner effectivement des responsabilités, alors d'abord sur le plan musical, mais on va aussi leur donner des espaces de parole, des espaces d'organisation militante. Par ailleurs, sur le hip-hop et sur le rap, je crois qu'il y a une dimension aussi qui est intéressante, qui renvoie à toute une tradition protestante assez ancienne, qui est celle du prophétisme, qui a toujours été un petit peu regardé avec suspicion par les institutions. Pourquoi ? Parce que le prophète, il est un peu incontrôlable, il peut aussi répondre à une forme de colère. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le rap, dans ses expressions musicales, y compris chrétiennes et évangéliques, il y a une forme comme ça de prophétisme, un petit peu par la bande, qui s'exprime et qui dit des choses sur la société d'aujourd'hui.
Alors, à propos de l'église évangélique aux États-Unis, elle est le fruit d'une scission très très ancienne qui remonte à quoi, 500 ans, et elle est le résultat d'un puritanisme mais qui a été exporté d'Europe vers les États-Unis. C'est quoi cette église évangélique qui, pour peut-être les plus radicaux, entend instaurer une cité de Dieu, et instaurer, non pas dans la cité, mais carrément une cité de Dieu, une théocratie peut-être ? C'est l'impression qu'on a quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, nationalisme, puritanisme, obscurantisme.
Alors en effet, il y a une particularité singulière de l'évangélisme aux États-Unis qui s'explique par l'histoire protestante des États-Unis, le mythe de la cité sur la colline, les puritains qui vont fonder une forme de nouvelle Jérusalem. Et il y a cette idée finalement que l'Amérique, son âme, c'est le christianisme, et en particulier le christianisme de type puritain. Et aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, globalement, on observe des mobilisations effectivement de plus en plus importantes du côté évangélique, mais surtout en réalité des évangéliques blancs. Alors je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, mais aux États-Unis,
mais comme J.D. Vance,
on parle des blancs, des latinos, des africains-américains, c'est ce vocabulaire-là qu'on utilise. Et au niveau des évangéliques blancs, il y a aujourd'hui une montée d'un christianisme identitaire, avec cette idée finalement que, si je puis dire, tout s'écroule, l'Amérique de Norman Rockwell, l'Amérique de la petite maison dans la prairie disparaît, et cette pluralisation croissante de la société américaine qui marque l'évolution contemporaine depuis 1945, eh bien, ces évangéliques la refusent. Et finalement, on regarde dans le rétroviseur en se disant, notre identité, c'est ce type de christianisme-là. Et à bien des égards, on pourrait faire un parallèle avec le christianisme et le catholicisme en particulier de type identitaire en Europe, et je pense notamment à la manière dont un Zemmour, par exemple, en France, va instrumentaliser un certain catholicisme identitaire, Éric Zemmour, pour réveiller une forme de fantasme d'une France chrétienne qui n'a probablement jamais existé réellement comme il l'imagine.
Et quid de l'Asie et de l'Afrique où on compte le plus d'évangéliques ? Pourquoi ? Parce que les églises là-bas se substituent à l'État, parfois défaillant. Comment on l'explique, ce regain d'intérêt, ce succès en Afrique notamment ? On le voit sur la carte, 210 millions de fidèles.
Alors l'évangélisme fonctionne effectivement très bien dans ce qu'on appelle le Sud global. et il s'est beaucoup développé après la décolonisation dans les années 60. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un christianisme qui part du bas, hein, qui répond en fait aux demandes des fidèles. Ce sont les fidèles eux-mêmes qui construisent l'assemblée et qui finalement vont déterminer la liturgie, la prédication, un petit peu comme ils le souhaitent. Et si finalement un pasteur ne convient pas, eh bien les fidèles s'en vont. Hein. Donc il y a une force en fait du groupe client, de la communauté de base, si je puis dire, qui répond en fait à beaucoup de besoins sociaux, notamment dans des sociétés africaines qui aujourd'hui sont marquées par la méga-urbanisation,
ouais, l'exode rural aussi.
Un exode rural considérable, avec des populations qui sont souvent déracinées, qui ont besoin d'une famille de substitution, qui ont besoin aussi d'un espace de solidarité.
L'église.
Et c'est précisément ce que ces églises proposent.
J'ai une dernière question, Sébastien Fatt. Le rôle des femmes, non, parce qu'on peut s'interroger, notamment aux États-Unis à propos de cet évangélisme puritain, et la place des femmes, c'est quoi ? Il y a des femmes pasteurs, qu'en est-il ?
Alors, l'évangélisme est plus conservateur que d'autres types de protestantisme, mais il est beaucoup plus progressiste sur ce point que le catholicisme. Effectivement, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes pasteurs en banlieue parisienne, une des grandes méga-churches de région parisienne est conduite par une femme pasteur. Donc effectivement, les femmes ont des espaces en termes d'autorité, d'enseignement, qu'on ne trouve pas dans l'Église catholique. Et c'est une des raisons aussi de l'attractivité de ces églises aujourd'hui.
Et de l'essor de ces églises. Tout sur le nouveau pouvoir évangélique, cet essor, et comprendre ça de l'intérieur. Merci infiniment.